Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Le Monde aujourd'hui, 30 minutes d'informations en continu. Bienvenue, présidentielle américaine. C'est aujourd'hui que les grands électeurs américains votent pour formaliser la victoire de Joe Biden à la présidentielle de novembre. Cet exercice, qui a toujours été en théorie une formalité, revêt cette année une importance particulière face au refus du sortant Donald Trump de reconnaître sa défaite. Le président élu a prévu de prononcer un discours ce lundi soir depuis sa ville de Wilmington dans le Delaware pour célébrer cette nouvelle confirmation de sa victoire et, je cite, « la force et la résilience de la démocratie américaine ». Les résultats du scrutin du 3 novembre ont déjà été certifiés légalement par chacun des 50 États américains. Le démocrate Joe Biden a remporté le nombre record de 81,28 millions de voix, soit 51,3% contre 74,22 millions et 46,8% au président républicain sortant. L'interminable saga du Brexit repart pour un tour. Londres et Bruxelles ont décidé dimanche de prolonger leurs négociations en vue d'un accord commercial sans se fixer cette fois de date butoir avant le coup d'éclat de la rupture définitive le 31 décembre. Sans accord commercial, ces échanges avec l'Union européenne se feront selon les seules règles de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, synonyme de droit de douane ou de quotas, au risque d'un nouveau choc pour des économies déjà fragilisées par le coronavirus. Les discussions butent sur trois sujets, l'accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques, la manière de régler les différends dans le futur accord et surtout les conditions que les Européens exigent des Britanniques pour éviter toute concurrence déloyale. Sur le continent, le premier ministre du Royaume africain d'Eswatini est mort dimanche dans un hôpital sud-africain, a annoncé dans la soirée le gouvernement de ce pays, ex-Swaziland, sans préciser la cause de ce décès. Ambrose Lamini, premier ministre de la dernière monarchie absolue du continent, avait 52 ans. Il était chef d'entreprise, novice en politique. Il avait été nommé premier ministre en octobre 2018. Monsieur Dlamini avait succédé à Sibou Sisso Barnabas Dlamini, récemment décédé de maladie. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a fait dimanche sa première apparition depuis son transfert en Allemagne, où il a été hospitalisé fin octobre après avoir contracté le nouveau coronavirus. « Je retrouverai mes capacités physiques dans une à deux semaines, peut-être trois », dit-il dans une vidéo sur Twitter. « Nous serons bientôt dans le pays pour continuer à construire une nouvelle Algérie », ajoute le chef de l'État qui est âgé de 75 ans. Abdelmadjid Tebboune a succédé il y a un an à Abdelaziz Bouteflika, contraint par la rue à renoncer au pouvoir qu'il exerçait depuis 1999. On va maintenant au Nigeria. Les autorités ont assuré dimanche que l'armée ne ménageait pas ses efforts pour trouver plusieurs centaines d'élèves portés disparus après une attaque. Des hommes armés venus à Moutou ont attaqué tard vendredi soir un établissement d'enseignement secondaire dans l'état de Katsina dans le nord du Nigeria. Le président Muhammadu Buhari avait condamné samedi l'attaque qui s'est déroulée dans l'état où il est né, menée par, je cite, des lâches et visant des enfants innocents. M. Buhari a promis de renforcer la sécurité dans les écoles et l'ONU a exigé dimanche la libération sans condition de tous les enfants enlevés. Le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, en visite à Addis Abeba, a affirmé dimanche s'être mis d'accord avec son homologue éthiopien pour la tenue en urgence d'une réunion de l'IGAD, groupement de 7 pays de l'Est africain pour résoudre la crise au Tigré. Aucune information n'a été donnée pour le moment à Addis Abeba. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui a reçu en 2019 le prix Nobel de la paix, résiste depuis des semaines aux pressions de la communauté internationale, États-Unis et Union africaine en tête, pour accepter une médiation au Tigré. Et puis, au moins 27 personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche dans une attaque d'une barbarie inouïe au Niger, attribuée aux djihadistes de Boko Haram dans le sud-est du pays, quelques heures avant l'ouverture des scrutins municipaux et régionaux dans le pays à deux semaines de la présidentielle qui verra Mahamadou Issoufou quitter le pouvoir après deux mandats. Cette attaque est l'œuvre de Boko Haram, a affirmé à l'AFP un responsable du département de Bosso, dont relève le village de Toumou où a eu lieu l'attaque dans la région de Difa, près de la frontière avec le Nigeria. Ne partez pas dans quelques secondes. La suite de nos informations ce lundi 14 décembre, élection locale hier dimanche au Niger, plus de 7 millions d'électeurs inscrits devaient choisir les élus locaux au niveau des communes et des régions. Les dernières élections de ce type remontent à 2010. Les enjeux étaient donc nombreux, nous dit notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Un des enjeux de ce scrutin reste le défi organisationnel à relever par la Commission électorale nationale indépendante permanente, fortement critiquée sur le sujet par l'opposition politique notamment. Et le président Issoufou Mahamadou l'a évoqué après avoir accompli son vote au bureau de vote numéro 1 de la ville de Niamey.
Ces élections constituent une répétition dans la perspective des scrutins législatifs et présidentiels du 27 décembre prochain. C'était un pari difficile à tenir, mais la CENI a tenu ce pari. Je voudrais l'en féliciter.
Pourtant, dans beaucoup de régions et même dans la capitale, des bureaux de vote ont ouvert avec de grands retards pour cause de non-acheminement du matériel de vote. Pour certains, le vote va même devoir reprendre ce lundi. Plus de 100 structures, partis politiques et candidats indépendants sont en lice pour ces élections qui consacreront les nouveaux conseillers municipaux et régionaux des 267 communes et arrondissements communaux du pays. Pas d'annonce pour l'instant du côté de la CENI de date pour la proclamation des résultats provisoires de ces élections. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La République centrafricaine entre dans la phase décisive pour les élections présidentielles et législatives du 27 décembre. La campagne électorale lancée ce samedi se poursuit dans la capitale et à l'intérieur du pays. À Bangui pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
Ouverte le samedi 12 décembre, la campagne électorale se déroule du moins pour le moment dans un climat apaisé. Les candidats à la présidentielle et aux législatives multiplient les sorties publiques. Faustin Archange Touadéra, candidat à sa propre succession, a tenu samedi et dimanche deux grands meetings à Bégoua dans le nord de Bangui et à Wango dans le 7e arrondissement. Martin Zigili, qui se présente pour la 4e fois à la présidentielle, était le week-end dans les 8e et 7e arrondissements. L'indépendant Éloi Anguimaté, qui est à sa première conquête du fauteuil présidentiel, a fait son meeting ce dimanche dans la commune de Bégoua. Le chef de file de l'opposition, Anissé Georges Dologuilé, a fait sa première sortie publique samedi dans le 2e arrondissement, mais annonce son grand meeting dans les prochains jours. Sylvain Patassé, fils de l'ancien président Ange-Félix Patassé, est le tout premier candidat à la présidentielle à tenir son meeting hors de la capitale. Il s'est adressé ce dimanche aux électeurs de Bria, une zone contrôlée en grande partie par des groupes armés. Pour le moment, tout semble se dérouler normalement, mais la grande inquiétude de certains candidats est l'accès aux zones contrôlées par des groupes armés. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Les États-Unis s'apprêtent à vacciner en masse leur population après avoir été le 6e pays à approuver le vaccin de Pfizer-BioNTech qui va commencer à être administré à des millions d'Américains à partir de ce lundi. Le point avec Abdourahmane Dia.
Aux États-Unis, pays le plus touché avec ses plus de 16 millions de cas, le vaccin a commencé hier à être acheminé dans des caisses réfrigérées à moins 70 degrés Celsius depuis l'usine Pfizer du Michigan vers des hôpitaux et d'autres sites. Les premières cargaisons arriveront lundi matin, a assuré le général Gus Perna, responsable de l'opération Warp Speed, pour acheminer le vaccin. Selon le général, 145 sites du pays recevront le vaccin lundi, 425 supplémentaires mardi et 66 mercredi. Cette première phase concerne environ 3 millions de personnes, avec un objectif de 20 millions au total en décembre. Les infections ont grimpé en flèche aux États-Unis avec 1 100 000 nouveaux cas confirmés durant les 5 derniers jours. Les États-Unis ont été vendredi le 6e pays à approuver le vaccin de l'Alliance américano-allemande après le Royaume-Uni, le Canada, Bahreïn, l'Arabie saoudite et le Mexique. L'Agence européenne du médicament devrait rendre un avis d'ici fin décembre.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Place maintenant au sport et comme tous les lundis, c'est avec Élisée Oumpatine. Bonjour Élisée.
Bonjour à tous.
Football avec le tournoi qualificatif pour la CAN des moins de 20 ans, Mauritanie 2021. On connaît les deux équipes qualifiées pour la zone COSAFA.
Oui, et c'est à l'issue des demi-finales jouées en Afrique du Sud. Et la Namibie, vainqueur 2-0 de l'Angola, a obtenu son billet. Tout comme le Mozambique qui a surpris la Zambie 5-4 après la séance des tirs au but. Le score était de 0-0 après le temps réglementaire. Les deux équipes représenteront donc la zone COSAFA.
Pour la zone B UFOA, les qualifiés seront connus demain mardi.
Tout à fait, et ça va se jouer entre le Niger premier du groupe A qui affrontera le Ghana deuxième du groupe B et puis la Côte d'Ivoire qui a fini en tête du groupe A croisera le Burkina Faso second du groupe A. Les deux équipes qualifiées pour la finale valideront aussi leur billet pour la phase finale de cette compétition qui aura lieu en Mauritanie en 2021.
Élisée, on prend la direction de la Tanzanie pour faire le point de la 14e journée de la Premier League.
Et grâce à sa victoire à domicile 2-1 sur Ruvu Shooting, Young Africans creuse l'écart en tête du classement avec 34 points devant Azam FC, deuxième avec 27 points, après son nul 0-0 concédé sur la pelouse de Guambina. Simba Sport est troisième avec 26 points, mais avec deux matchs en moins. Au Ghana, on jouait la cinquième journée du championnat et Karela, vainqueur 2-0 de Kinfessal, prend la tête du classement avec 11 points devant Wafou qui a réalisé le même score face à Berekum Chelsea. Le match choc de cette cinquième journée a vu la victoire étriquée 1-0 d'Asante Kotoko de Kumasi, champion en titre, devant Legon City, club de Gian Asamoah.
Reprise du championnat en Égypte, ça démarre bien pour le champion en titre.
Après avoir réalisé le triplé historique, championnat et coupe nationale ainsi que la Ligue des champions, le national à la Ligue du Caire a battu 3-1 Messi El Makassar. Victoire 2-0 de l'autre géant du Caire, le Zamalek face à Arab Contrator. Mauvaise attaque par contre pour Pyramide FC qui s'est incliné 2-1 à domicile devant Al Ittihad.
Et puis on va parler de boxe avec d'abord cette victoire du Congolais Martin Bakole sur le Russe Sergei Kuzmin. Il remporte ainsi la ceinture WBC international des poids lourds qui était vacante.
Oui, et cette victoire intervient une semaine après que son frère Ilunga Makambu ne défende sa ceinture WBC des lourds légers à Kinshasa le 19 décembre prochain. Plus de précisions avec notre correspondant sur place, Valdo Simbo Yamba.
Pour la deuxième fois en presque une année, Kinshasa est prêt à accueillir le championnat du monde de boxe entre le Congolais Ilunga Makambu et le Nigeria, Durodola, le 19 décembre prochain. Ilunga Luyoyo est le président de la Fédération congolaise de boxe.
Le combat aura lieu le 19. Et avant d'annoncer, nous devons nous rassurer que si on annonce, réellement ça va se faire. Donc comme on vient d'annoncer, c'est parce qu'on a eu des assurances.
Ce combat s'inscrit dans le cadre de la défense de la ceinture WBC des lourds légers par les Congolais Makambu qui s'est suffisamment préparé à l'étranger. Tarek est l'un de ses entraîneurs qui a supervisé sa préparation.
Pour être fin prêt contre Durodola, où il a changé entre 2 et 3 sparrings, 2 ou 3 différents gars étaient sur le ring avec lui et il a fait à plusieurs reprises plusieurs 12 rounds. Donc avant ce championnat-là, il a déjà fait à peu près 4-5 championnats du monde, déjà rien qu'à l'entraînement.
Revenu à Kinshasa le 13 décembre, le Congolais Makambu pourra compter sur le soutien de son jeune frère Martin Bakole, devenu champion du monde poids lourd WBC le samedi dernier, après sa victoire au point sur les Russes Sergei Kuzmin. Kinshasa, Valdo Simbo Yamba, VOA Afrique.
La page des sports de VOA Afrique était signée Élisée Oumpatine.
Salut les amis, c'est Yakuba Ouedraogo. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leurs éclairages. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon toujours en votre compagnie. À présent, nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, on a rendu hier, 13 décembre, hommage au journaliste Norbert Zongo et ses compagnons assassinés le 13 décembre 1998. Les organisations de la société civile qui militent pour que justice soit faite depuis tout ce temps estiment que le dossier avance et bientôt on connaîtra un dénouement judiciaire. Les avocats des familles des victimes, eux, attendent toujours l'extradition de François Compaoré, frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré, principal inculpé dans ce dossier. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré.
Il aurait eu 71 ans en 2020, mais il y a 22 ans, le 13 décembre 1998, le journaliste Norbert Zongo, 49 ans alors, était assassiné avec trois de ses compagnons. Les quatre dépouilles ont été retrouvées calcinées dans sa voiture incendiée à Sapui, à une centaine de kilomètres au sud de Ouagadougou. Dans la capitale ce dimanche, quelques centaines de personnes se sont réunies à la place de la Nation, au centre de Ouagadougou, pour réclamer justice pour les journalistes.
22 ans, ce n'est pas 22 jours.
Josiane Tiendrebe est une militante de l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse.
Jusque là, malgré les promesses qui sont faites en l'air, on n'a toujours pas de justice pour ces camarades qui ont été assassinés. Et le pire, c'est que jusque là, on assiste toujours à des assassinats. Il n'y a pas de justice pour ces crimes-là.
Voilà. Al-Mami Kadji est un musicien.
Nous, en tant qu'artiste musicien, moi, en tant qu'artiste reggae maker, c'est également d'apporter cette touche-là, tout en chantant, pour réclamer vérité et justice pour Norbert Zongo et ses compagnons qui ont été lâchement assassinés par le régime sanguinaire et barbare de Blaise Compaoré.
Les organisations de la société civile disent être engagées à poursuivre la lutte pour que justice soit faite.
On peut être effectivement impatient, mais jamais de mobiliser, jamais de courageux, jamais de suivre.
Abdoulaye Diallo dirige le centre de presse Norbert Zongo.
On est toujours mobilisé parce que c'est un combat de la vie. Norbert Zongo a donné sa vie, il s'est sacrifié pour nous. Le minimum qu'on puisse faire, c'est d'être aussi déterminé pour que justice nous soit rendue.
Chrysogome Zoumouré est le président du collectif des organisations de masse et des partis politiques, créé à l'époque pour dénoncer l'impunité.
Si 22 ans après nous sommes debout, c'est que nous avons foi en ce que nous faisons et que nous avons espoir que vérité et justice seront dites et faites pour Norbert Zongo et ses compagnons.
Et le dossier judiciaire avance à grands pas depuis 2015, l'avènement de la transition. Maître Prosper Farama est l'un des avocats de ce dossier Norbert Zongo.
Pendant longtemps, ce dossier a fait l'objet d'un non-lieu. Il avait été mis au garage. Aujourd'hui, on a des inculpations dans le dossier. On a un mandat d'arrêt lancé contre François Compaoré, qui d'ailleurs a beaucoup évolué. On attend le dernier recours introduit par ses avocats au niveau du Conseil d'État français. Vous voyez, le dossier a beaucoup évolué.
À la place de la Nation de Ouagadougou, ces organisations de la société civile qui luttent pour que justice soit faite dans ce qu'on appelle désormais ici le drame de Sapui ont réaffirmé leur engagement à poursuivre la lutte. Le bout du tunnel n'est certainement plus loin selon elles. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Sénégal, la troisième édition du festival cinématographique Dakarakou a baissé le rideau ce samedi. Cet événement exclusivement dédié au court-métrage a permis à des jeunes Africains de vivre leur passion pendant 7 jours aux côtés des sommités du cinéma africain et mondial. Le festival a aussi mis en compétition 12 films pour 6 prix, dont le prestigieux Grand Prix du jury présidé cette année par le réalisateur Souleymane Cissé, double étalon d'or au FESPACO et premier africain primé au Festival de Cannes. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Pour la force de sa proposition qui fait dialoguer symbolique, poésie, tradition et modernité, pour l'élégance et la précision de sa mise en scène, l'expression sensorielle à laquelle il nous convie, le jury à l'unanimité décerne le Grand Prix du jury Dakarakou au film Guakoulou du réalisateur Moïse Togo.
C'est par cette description précise et imagée que la légende du cinéma africain Souleymane Cissé, par ailleurs président du jury de Dakarakou, a consacré le film de son compatriote malien Moïse Togo. Pour le jeune lauréat, le film Guakoulou vise à montrer à la génération actuelle l'importance de la culture et des traditions africaines.
L'idée de base était vraiment d'expérimenter, de travailler sur des symboliques sur notre tradition et mélanger ça avec la modernité. Donc, à travers ce film, je voulais créer un lien entre le passé et le présent, accentuer nos valeurs culturelles et aussi les interdits d'ordre comportemental dans notre société que notre génération aujourd'hui a tendance à vraiment abandonner.
Le court-métrage n'est pas beaucoup pris en compte ou est souvent dans la mêlée, d'après Fatou Kinesen, présidente de la Fédération africaine des critiques de cinéma. Pour elle, c'est cela, associé à la promotion des jeunes, qui donne encore plus d'impact au Festival Dakar Court.
C'est important, puisqu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent au cinéma et qui font des films qui doivent être vus, être jugés et les permettre d'évoluer aussi dans le métier qu'ils ont eu à choisir. Il faut en tout cas multiplier ces initiatives, appeler d'autres à organiser, à créer ce genre de festival pour donner la chance à ces jeunes.
Donner la chance aux jeunes, c'est le sacerdoce de Moulikan, initiateur du Festival Dakar Court. Pour lui, l'objectif est maintenant d'assurer un encadrement de qualité aux jeunes afin qu'ils aient toutes les chances de percer dans le monde cinématographique.
C'est des séries d'ateliers d'écriture de scénarios, de réalisations. Et les prochaines années, nous voulons l'élargir, mais aussi surtout équiper les cinéclubs qui sont dans les régions. C'est fondamental. Et ça, c'est un projet que j'aimerais vraiment réussir. C'est de permettre à tous les cinéclubs d'avoir des sièges. Ça, c'est un. Et équiper les sièges permettre au cinéma de se développer dans les régions.
Malgré des moyens très limités et des conditions de travail parfois compliquées, les jeunes réalisateurs africains veulent vivre pleinement leurs rêves et le festival Dakar Court leur a permis de côtoyer des sommités du cinéma africain et mondial pendant une semaine, riche en apprentissage et en opportunités. Seydina Bagay à Dakar pour VOA.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En République centrafricaine, la campagne électorale ouverte le samedi 12 décembre se poursuit. Face aux messages de haine qui sont propagés ces derniers jours sur les réseaux sociaux, les politiques sont appelés à la retenue et à faciliter le bon déroulement du processus électoral. À Bangui pour VOA Afrique, la correspondance de Freeman Sipila.
La République centrafricaine n'a point besoin de sombrer de nouveau dans la violence. Pour cela, les élections à venir doivent se tenir dans un climat apaisé, a insisté la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Pour Joseph Bindoumi, son président, les candidats doivent s'engager sur plusieurs points.
Nous avons demandé que les candidats à la présidence de la République s'engagent à protéger à tout moment les civils, les politiques, l'économie et les relations socio-culturelles de la République centrafricaine. Nous avons insisté aux candidats de s'engager à promouvoir un esprit républicain de paix, de dialogue, de respect des institutions et de respecter l'indépendance des médias pour l'avènement de la démocratie en République centrafricaine.
Au lancement de la campagne électorale, l'autorité nationale des élections a été on ne peut plus claire. Elle a mis en garde les candidats contre les messages de haine. La présidente Marie-Madeleine Coué-Ornaillère.
Eu égard à ce contexte difficile où vit la population et dans lequel vous allez faire campagne au nom de l'AME, j'exhorte chacun d'entre vous à tout faire pour que chaque acte, chaque mot, chaque parole soit dans le sens d'un allègement de la souffrance du peuple. L'autorité nationale des élections attend de vous un esprit de civisme, de discipline et de non-violence pour vous-même et vos partisans pour que la campagne se déroule dans un climat apaisé.
L'attente est aussi grande du côté des Centrafricains lambda que VOA Afrique a rencontré.
Nous ne voulons pas qu'ils viennent nous tromper pour nous dire qu'ils vont nous réparer les routes, nous construire des maisons, nous donner de l'argent. Nous n'attendons pas de cela.
Le peuple centrafricain veut la paix et il faut que nos leaders se comportent en grand, donc en grand monsieur. Au lieu de s'injurer lors des propagandes de route, c'est pas ça qui peut avancer le pays.
Que toute l'étendue de la RPA soit calme. Puis nous allons choisir celui que nous voulons diriger le pays puisque nous avons trop souffert.
De son côté, le président du Haut Conseil de la Communication, José Richard Poimbi, rappelle aux médias leur rôle durant cette période sensible.
J'en appelle au professionnalisme des journalistes de faire très attention car la communication politique sécrète toujours des messages de haine. Tout le monde veut gagner, c'est moi, conséquence, message de haine.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a aussi dans un message adressé aux Centrafricains, appeler les différentes parties prenantes au processus électoral à la retenue.
J'exhorte tous les responsables politiques, leurs partisans, les porteurs de voix et les médias de s'abstenir de tout discours de haine, d'incitation à la violence et de désinformation. Ces actes desservent la cause de la paix à laquelle le peuple centrafricain est fortement attaché. J'invite les responsables politiques à résoudre tout différend par le dialogue.
La mission conjointe CEAC, Union africaine et Nations unies qui a séjourné la semaine dernière en Centrafrique, a également demandé aux différents acteurs, notamment politiques, leaders de la société civile et groupes armés, de faciliter le bon déroulement du processus électoral en cours. Sur le terrain, la campagne électorale se déroule dans une ambiance encore morose, tant à Bangui qu'à l'intérieur du pays. La grande inquiétude de certains candidats est l'accès aux zones contrôlées par des groupes armés, toujours imprévisibles, soufflant à la fois le chaud et le froid. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En RDC, il se tient en ce mois de décembre une foire dénommée Kitunga, qu'organisent les femmes entrepreneurs du Congo. Le but est de promouvoir les produits fabriqués par la main-d'œuvre locale. La foire se tient à Kinshasa et sur place, plusieurs produits sont exposés et vendus. De Kinshasa, la correspondance de Valdo Simon Yamba.
La promotion de la production locale est le principal objectif poursuivi par les organisateurs de cette foire qui s'y tient tous les jours et ce, pendant 29 jours à Kinshasa, à la place des évolués, dans la commune de la Gombe. Betty Moulanga, présidente de l'AFECO, l'association des femmes entrepreneurs du Congo, est la coordinatrice de cette activité.
L'objectif de la foire, c'est la promotion de la production locale. Donc le but, c'est de présenter les produits fabriqués par nous-mêmes. Et deuxièmement, c'est pérenniser le projet.
Les problèmes liés à la production étant quasi résolus, la commercialisation par contre reste un gros souci, explique Betty Moulanga.
Au-delà des soucis, des petits problèmes qu'on a dans la transformation, la production, l'emballage, la valorisation de nos produits et tout, on a un très grand souci de commercialisation. Donc on peut beau produire, mais vendre est un souci.
Avec la présence de la pandémie à Covid-19, la commercialisation se complique davantage. Ndialo Majosline expose les vêtements en pagne pour adultes et enfants.
C'est très timide, c'est vrai que les gens se plaignent à cause du Covid, mais on ne va pas laisser Covid gâcher notre joie de vivre. En fait, nous sommes en décembre, avec le peu que Dieu nous donne, on peut se faire plaisir. Ici, nous avons les articles, il y a les articles de 2000, 3000 francs, au fait. C'est pas cher, on peut venir se faire plaisir avec le peu qu'on a.
Après 10 jours, l'effectif des exposants est passé des 28 à 20, une baisse d'effectifs qui influence logiquement le rythme des ventes. Ces derniers demeurent un vrai problème. Alors que l'espace coûte cher, c'est plein Tabita Kapinga qui expose les jus fabriqués à base des fruits locaux.
Avant de jus fait à base de bissap, de baobab, fait à base de gingembre et curcuma. Nous avons aussi les kea, le cœur d'Amérique. On paye très cher l'espace, on ne vend pas beaucoup.
Voilà qui explique les besoins d'un site référence à la fois pour exposer et vendre les produits locaux, estime Betty Moulanga, coordonnatrice de la foire Kitunga.
Alors qu'ici, on a des artisans, on a des transformateurs de tout genre, on a des poudres, on a des savons, on a des habits, on a des chaussures, on a une variété de nos produits. Donc notre souci, c'est avoir un endroit dans un lieu commercial comme ça, comme une foire, où les gens savent qu'à tout moment, ils peuvent passer, acheter, poser les questions, proposer et puis commander leurs produits.
Débutée le 3 décembre 2020, la foire Kitunga va fermer ses portes jusqu'au 31 décembre. Kinshasa, Val de Simoyamba, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Billon, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Excellente journée à tous. Au revoir.